Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Les petits contes du tapis aux éditions du Seuil. Les petits contes du tapis, c'est une collection éditée au Seuil Jeunesse. Une collection d'albums tout cartonnés, très grand format, muet pour les enfants, parlant pour l'adulte, qui se lise un peu comme un kamishibai, ce théâtre d'images japonais. La dernière page du livre concentre sur elle tout le texte, tout le récit de l'histoire racontée. Elle se replie pour être toujours devant les yeux de l'adulte lecteur qui raconte l'histoire, tandis qu'il tourne au fur et à mesure les pages où l'enfant placé en face regarde les images. En effet, le livre cartonné est assez solide pour tenir debout tout seul. En fait, c'est une des possibilités. Une autre étant de lire le livre à plat, texte et images dépliés, pour une lecture côte à côte. Une autre, enfin, pour des enfants plus grands et un peu théâtreux, et de lire eux-mêmes le conte à des enfants plus petits, ce qui est toujours, pour certains enfants, une grande réjouissance. La collection est très riche. Elle propose des contes classiques, le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, boucle d'or, des contes et légendes des pays du monde. Pourquoi le tigre ne grimpe pas aux arbres ? Le lapin et le tigre, le petit chacal et le vieux crocodile, les babouches d'Abou Kassem. Les auteurs et illustrateurs qui ont mis en mots et en images ces histoires sont des valeurs sûres. Gilles Bizouerne, Antoine Guilopé, Lionel Le Néouani. Manfei Obin, conteur ivoirien, a écrit plusieurs textes de cette collection, le petit chacal et le vieux crocodile, l'escargot et l'éléphant. L'éditeur annonce sur sa quatrième de couverture un conte malicieux, les mots du conteur, de belles et grandes images. Benjamin Lacombe a magnifiquement illustré l'histoire racontée par Mimi Barthélémy. Pourquoi la carapace de la tortue n'est-elle plus lisse du tout, du tout, du tout ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si Titotu n'avait pas été si gourmande, toutes les tortues de la Terre auraient encore la carapace lisse, lisse, lisse. C'est un conte de Guyane. Titotu est née à l'île de la Tortue. Elle est sortie du genou de sa mère, pas de son ventre. Titotu vit en Guyane, chez son papa Gustave, chez son papa Tatave. Titotu n'a pas de dents, et pourtant, elle mange des pois doux, des pois sucrés. Écoutez son histoire, cric-crac. Sébastien Mourin, lui, a illustré La fine mouche, un conte populaire russe raconté par Jean Perrault. Il y avait, dans le royaume d'un tsar, deux frères. L'un avait une charrette, l'autre une jument. Pendant la nuit, la jument met bas sous la charrette. À votre avis, à qui appartient le poulain ? Au propriétaire de la charrette ou à celui de la jument ? Je ne peux pas vous parler de tous les titres publiés dans cette collection. Ils sont très souvent dans les bibliothèques. Allez voir !
La reine des coquillages, aux éditions du Pourquoi pas. C'est une maison vosgienne indépendante qui consacre ses ouvrages à des sujets sociétaux tout en privilégiant l'originalité dans la création. Que ce soit dans le domaine de la narration ou dans celui de l'illustration, elle a pour idéal, je cite, « de voguer loin des mondes connus et des sentiers battus et de susciter d'autres regards ». La plupart de ses thèmes sont inspirés du manifeste « Faire société » de la Ligue de l'enseignement des Vosges, à l'origine de productions en collaboration avec l'École supérieure d'art de Lorraine. La Reine des coquillages est une histoire écrite à quatre mains par Yves-Marie et Nathalie Clément, illustrée par Simon Bailly. Elle peut être lue dès 10 ans. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux enfants qui vivent chacun dans sa vie une réalité difficile. Charlie n'a qu'une passion dans son univers d'autiste. Il dessine, sans trêve, les coquillages qu'il ramasse dans le sable. Il installait ses trouvailles sur le petit bureau de sa chambre. Il sortait son cahier à dessin et il reproduisait le plus fidèlement possible chacun de ses trésors. Le crayon noir caressait le papier granuleux, traçant des courbes parfaites, des arabesques, des tourbillons infinis, des hélices sans fin. Il appréciait surtout les petits spécimens. Les grandes oreilles de mer et les couteaux prenaient beaucoup trop de place sur le papier. Alors quand il les dessinait, il en diminuait la taille et il n'en faisait jamais plus de deux. Ensuite, il puisait dans le lourd catalogue de son imaginaire, inventant des poissons, des baleines, des méduses, des algues et des rochers. Parfois, des hommes-grenouilles. Parfois, des épaves de galions espagnols. Il dessinait des dauphins et des requins, et toute cette vie parcourait librement la feuille à dessin, se glissant dans tous les sens, se frayant des trois passages entre les bulots, les bigorneaux et les couteaux, si parfaitement dessinés. Mais un jour, ce n'est pas un coquillage qu'il va ramasser, c'est un carnet rouge, à spirale, enveloppé dans un paquet. Charlie posa le carnet sur son bureau, à la place du cahier de devoirs de vacances. Puis il tourna les deux premières pages. C'était écrit « Journal de Nour » en belles lettres rondes, à l'encre bleue, d'un trait épais un peu délavé. Une question lui vint alors tout naturellement à l'esprit. Qui donc était ce Nour? Pourquoi avait-il emballé son carnet? Et pourquoi l'avait-il ensuite jeté à la mer? Dès lors, l'enfant va considérer ce mystérieux carnet comme un trésor, au moins aussi rare que le plus beau des coquillages. Et lui, qui ne parvenait pas à se concentrer dans une lecture à l'école, va décider que ce livre lui est destiné, qu'il a été écrit pour lui, par ce mystérieux Nour au prénom sucré, et qu'il va le lire jusqu'au bout. Mais l'enfant nommé Nour ne raconte pas une belle histoire. Son récit évoque la fuite dans une embarcation dérisoire de sa famille qui fuit son pays en guerre. Maman a posé nos affaires à l'avant, sous une bâche en plastique. Juste deux sacs. Je me rends compte qu'il ne reste presque plus rien de notre vie d'avant. Quelques habits, un ou deux souvenirs, des photos que maman a soigneusement emballées, de précieux papiers. Papa a vérifié les nourrices d'essence posées au fond de l'embarcation. Elles sont bien pleines. Celui qui nous a amené la barque a conseillé de ne jamais perdre de vue la côte. Avant de partir, j'ai ramassé un coquillage. C'est comme un escargot, très long, pointu. Il est vraiment très beau. Je l'ai serré dans mon poing et je l'ai fourré dans ma poche. Ce sera mon porte-bonheur pour la traversée. Ainsi, Nour aime aussi les coquillages. Il ressemble peut-être à Charlie. Au fil des jours et de sa lecture, Charlie en apprend toujours plus sur Nour, ses parents et sa petite sœur. Il regarde une carte du bassin méditerranéen pour situer ce pays, la Syrie, et la ville d'Alep dont parle Nour. Puis le Liban et l'Égypte où sa famille a vécu quelques semaines avant de prendre la mer. Tout doucement, Nour entre dans sa vie. Charlie essaie de l'imaginer. Son écriture est belle et son français très correct. Il a pu découvrir, grâce à son témoignage, une autre réalité du monde, si différente de son quotidien. D'abord, dans sa classe, il n'y a pas d'étrangers. Même pas Mohammadi, qui a la peau noire et parle français. Mais pas aussi bien que Nour ne l'écrit. Sans doute avait-il de meilleures notes que lui en français. Comme Zoé et Léa, Adélaïde et Camille. Charlie aurait aimé que Nour parle davantage de lui. Il ne se décrit jamais. L'illustrateur, Simon Bailly, formé à l'école d'Épinal, nous propose des images où se mêlent éléments réalistes et suggestions oniriques. Son univers graphique correspond avec justesse à l'histoire de Nour et Charlie, qui s'attachent chacun, et pour des raisons bien différentes, à dépasser l'épreuve de leur quotidien. Passant par l'encre, le découpage, le collage, il varie les techniques comme autant d'outils d'expression des sentiments de Charlie. Voilà 3 jours que nous sommes partis. Le moteur ne marche pas bien. Il s'arrête très souvent et il faut attendre avant de pouvoir le redémarrer. Et pendant ce temps, les courants nous ramènent vers la côte et nous essayons de nous en éloigner en utilisant les rames. C'est très dur. Je le vois sur les visages. Personne ne parle dans ce moment-là. Nous avons bien croisé de gros bateaux, mais aucun n'est venu nous secourir. Heureusement, la mer est plutôt calme et le soleil pas trop chaud. Pour mon premier voyage en bateau, c'est plutôt une drôle d'expérience. La guerre me semble lointaine. Mon pays me semble lointain. Tout ce que nous avons vécu avant de nous retrouver ici ressemble à un vague souvenir que je rêve désormais d'oublier, d'enfouir dans ma mémoire. Quand Charlie arrive à la fin du journal, il ne sait comment interpréter les derniers mots. Papa lève son poing serré au-dessus de sa tête. « La France !» J'ai regardé au loin, la côte est là. C'est sûr, c'est comme une barre de falaise qui domine l'horizon. Nous sommes presque arrivés, nous sommes au bout du chemin. Mais le ciel est noir et l'embarcation est secouée par les flots agités. Je vais arrêter d'écrire, je sens de l'inquiétude dans le regard des adultes. J'espère que nous n'allons pas chavirer si près du but. Je vais envelopper mon précieux carnet pour le protéger. Si tu le trouves, appelle-moi Nour. Après maintes hésitations, Charlie compose le numéro de téléphone inscrit dans le carnet rouge et il saura enfin qui est vraiment cet ami.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute !